projet de loi de modernisation de notre système de santé. Les propositions de l'Association des paralysés de France, en vue de l'examen au Sénat, 17 juillet 2015. L'APF est directement concernée par le projet de loi de modernisation de notre système de santé et à plusieurs titres. Mouvement de personnes en situation de handicap, elle revendique le plein accès à la santé pour tous. Association agréée représentative des usagers du système de santé, elle œuvre pour l'affirmation de leur légitimité à agir notamment dans le traitement des plaintes et réclamations et l'amélioration de la qualité de la prise en charge, ainsi qu'au renforcement des instances de la démocratie en santé. Organisme gestionnaire, elle agit pour l'évolution de l'offre médico-sociale pour répondre mieux aux besoins et aux aspirations des personnes qu'elle accompagne, notamment en inscrivant ses établissements et services dans un maillage territorial avec les autres acteurs du parcours de santé. L'élaboration du projet de loi relatif à la santé est l'occasion pour l'APF de rappeler ses attentes fortes pour la construction d'un parcours de santé sans rupture. Les personnes en situation de handicap attendent, plus encore que le reste de la population, de pouvoir recourir à des soins de qualité et de proximité de droit commun. Ils doivent être complétés autant que de besoins de prise en charge spécifique. Plusieurs des dispositions votées par les députés vont dans ce sens, d'autres restent à renforcer. Voici les propositions de l'APF. 1. Handicap et accès aux soins. Les difficultés d'accès à la santé rencontrées par les personnes en situation de handicap sont identifiées et dénoncées depuis des années. Le projet de loi de santé est l'opportunité à ne pas manquer pour mettre en œuvre les solutions déjà préconisées, audition organisée par la HAS en octobre 2008, rapport de Pascal Jacob juin 2013, rapport de Denis Pivetot juillet 2014. L'enjeu reste, pour les personnes en situation de handicap, de pouvoir recourir à des soins de qualité et de proximité de droit commun, complétés autant que de besoins de prise en charge spécifique. Plus précisément, il s'agit de s'attaquer aux obstacles multidimensionnels à l'accès aux soins. En adaptant la formation initiale et continue des professionnels de santé, éducatifs et administratifs, renforcement des connaissances sur les handicaps et leurs conséquences, sur la communication et la prise en compte de l'expertise de la personne et de ses proches aidants, sur les pratiques d'éducation à la santé et de soins adaptés. En rendant accessibles les lieux de soins et le cheminement jusqu'à ceux-ci, les consultations à domicile supposant un cantonnement des personnes en situation de handicap et entraînant un surcoût, en utilisant des matériels adaptés. En favorisant le recours aux aides financières, complémentaires santé privée, AC et CMUC, dispositifs extralégaux. Développer une approche globale de la santé, depuis l'apprentissage durable des gestes d'hygiène quotidienne adaptés, la prévention, le dépistage, jusqu'aux soins aigus et à la prise en charge des maladies chroniques. Et ce quel que soit le lieu de vie, de scolarisation, d'emploi et l'âge de la personne. En apportant une attention particulière aux périodes charnières qui peuvent avoir un impact sur le suivi global, avec pour conséquence une dégradation de l'état de santé. De ne recourir à des dispositifs spécifiques que lorsque l'état de la personne le nécessite, ou de manière transitoire lorsque l'offre de prise en charge en milieu ordinaire n'est pas encore accessible. Ainsi, l'orientation adéquate vers l'hôpital suppose de ne pas être de première intention. L'existence d'équipes de soins mobiles ou de consultations spécifiques handicap n'exonère pas de la mise en accessibilité et de la montée en compétence des professionnels du territoire. Développer des prises en charge coordonnées et concertées autant que nécessaire. Et toujours en reconnaissant les personnes en situation de handicap et leurs proches aidants acteurs et experts de leur santé. Ces enjeux ne sont pas tout propres aux personnes en situation de handicap. La rénovation de la politique de santé et du système de santé affirmé avec le projet de loi tend à y répondre, approche globale de l'état de santé de la personne, organisation des parcours de santé par la coopération en réseau et la coordination des acteurs. 2. Les avancées du projet de loi de santé. Plusieurs des dispositions votées par les députés répondent aux attentes relayées par l'APF. Elles doivent encore être confirmées par les sénateurs. A. Disposition générale. L'article 1er, qui fixe un cadre à la politique de santé et à la stratégie nationale de santé, a été nettement renforcé lors du débat à l'Assemblée nationale. L'APF note avec satisfaction qu'une attention accrue est portée aux personnes en situation de handicap, à leurs aidants non professionnels ainsi qu'aux enfants, complétée par l'introduction d'un parcours de santé à l'école à l'article 2. Ce focus est nécessaire à la prise en compte de leurs particularités pour une amélioration effective et durable de leur état de santé. Le comité d'entente des associations de personnes handicapées s'était d'ailleurs positionné en ce sens. L'APF relève qu'à l'article 14, la mission d'appui des ARS aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes a été remplacée par des fonctions d'appui. Suivant la proposition du comité d'entente et de l'APF, les personnes en situation de handicap sont désormais ciblées parmi les bénéficiaires du dispositif. L'APF attend du décret d'application qu'il ne réduise pas les fonctions d'appui à la seule coordination de parcours complexes, mais prévoit le recensement et le partage d'informations, une évaluation des besoins des professionnels, l'identification des ressources disponibles, la mise à disposition d'outils facilitant l'échange avec des patients atteints d'un trouble de la communication, conformément à la demande du comité d'entente. L'exercice de ces fonctions devra se faire en lien avec les acteurs du secteur médico-social et les réseaux de santé. B. Lutte contre le renoncement aux soins. La généralisation du tiers payant était attendue des usagers de la santé et des associations qui les représentent, article 18. Ce mécanisme, qui fonctionne déjà pour la pharmacie, le laboratoire de ville et l'hôpital, est un outil déterminant dans la lutte contre le renoncement aux soins pour raisons financières. Couvrant à terme l'ensemble de la population, il soulagera véritablement les personnes dont les revenus sont trop élevés pour accéder à l'ACMUC, couverture maladie universelle complémentaire, et à l'ACS, aide à l'acquisition d'une complémentaire en santé, mais contraints de procéder à des arbitrages entre leurs postes de dépenses, en différant ou en renonçant à des frais de santé. Or, la prise en charge tardive de problèmes de santé entraîne des frais plus importants, pour la personne mais aussi pour la collectivité. L'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé a été rénovée par diverses mesures, la dernière étant la possibilité de fixer des tarifs sociaux, comme cela se fait déjà pour l'ACMUC, tel que prévu à l'article 20. Le constat d'une prise en charge des soins d'optique, dentaire et audioprothèse très inférieure aux tarifs pratiqués est largement partagé. Le non-renoncement aux soins par les personnes subissant un reste à vivre extrêmement faible, l'allocation adulte handicapé est inférieure au seuil de pauvreté, suppose l'adoption de mesures spécifiques, à défaut d'une meilleure couverture pour tous par l'assurance maladie. L'APF attend son adoption par le Sénat en des termes identiques, puis la conclusion effective et rapide de tels accords. C. Renforcement des droits des usagers. L'article 38 introduit la possibilité de reconnaître au Conseil territorial de santé une mission de médiation en santé. À titre expérimental et sur 5 ans, cette instance qui remplace la conférence de territoire pourra être saisie par les usagers de demandes de médiation en santé, de plaintes et de réclamations. Lorsqu'elle avait été auditionnée par Claire Compagnon dans le cadre de sa mission sur la démocratie en santé, l'APF avait proposé la création d'une instance territoriale de traitement des plaintes et réclamations des usagers d'établissements et services médico-sociaux. Les personnes qualifiées, qui sont censées assumer cette mission de médiation, n'ont pas été nommées dans la moitié des départements, ne sont pas connues des usagers et ne disposent pas de moyens pour assumer leur mission. Compte tenu de la durée de l'accompagnement médico-social et des liens noués entre les usagers et les professionnels, a fortiori lorsqu'il s'agit d'un établissement avec hébergement, l'expression et le traitement des griefs des usagers par un tiers est la seule voie possible pour faire respecter leurs droits. D'ailleurs, le Conseil de vie sociale est une instance de participation des usagers au fonctionnement de la structure médico-sociale qui les accompagne et n'est pas compétent pour traiter des plaintes et réclamations, contrairement à la Commission des usagers qui remplacera la Commission des usagers et de la qualité de la prise en charge dans les établissements de santé. L'APF attend donc la confirmation par les sénateurs de la disposition inscrite au 5 de l'article 38, puis l'élaboration du décret en Conseil d'État avec la consultation des associations représentatives et du CNCPH. Ce décret devrait notamment prévoir l'information de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, CRSA, pour que le traitement des griefs par le Conseil territorial de santé soit pris en compte dans son rapport annuel sur l'effectivité des droits des usagers. L'APF salue le très net renforcement de la Commission des usagers à l'article 44 et dans la lignée des recommandations émises par Claire Compagnon en février 2014. L'élaboration d'un rapport annuel sur les droits des usagers et la qualité de la prise en charge ainsi que sa transmission à l'ACRSA et à l'ARS sont rétablis, conformément à la demande de l'APF. L'APF attendait la création de la procédure de l'action de groupe. Parmi les améliorations apportées par les députés à l'article 45 et qui étaient souhaitées par les associations d'usagers, la conditionnalité de la médiation à la demande de toutes les parties doit absolument être préservée pour que les producteurs, fournisseurs ou prestataires visés par la procédure ne l'utilisent pas pour la ralentir. D'autres évolutions sont encore attendues, réparation intégrale du préjudice, extension du dispositif à la responsabilité sans faute, charge de la preuve aux producteurs, fournisseurs ou prestataires mais ne pesant pas sur les victimes, indemnisation en cas d'aggravation ultérieure du dommage. La création d'un fonds de garantie est également avancée. Enfin, l'APF interroge la juxtaposition de procédures d'action de groupe par domaine de spécialité. L'article 46 bis sur le droit à l'oubli participe d'un net renforcement des droits des usagers, qu'il ait été atteint d'un cancer ou d'une autre pathologie. L'APF considère qu'un risque aggravé de santé ne peut être présumé du simple fait d'être en situation de handicap. Une action affirmée des pouvoirs publics, en lien avec les associations d'usagers et de personnes en situation de handicap, auprès des assurances et des banques sera essentielle pour faire respecter cette disposition. L'APF relève avec satisfaction que l'article 49 a été modifié pour que les usagers soient représentés dans l'organe de gouvernance des établissements de santé privés habilités au service public hospitalier par deux représentants issus d'une association agréée, comme la loi le prévoit déjà pour les établissements de santé publique. Par contre, l'APF se montrera vigilante pour que l'article 43B qui rend obligatoire aux représentants des usagers le suivi d'une formation de base indemnisée n'entraîne pas à terme la reconnaissance d'une indemnité de représentation. La représentation des usagers repose sur un engagement bénévole, qui reste à valoriser, et cela passe notamment par le remboursement intégral des frais de représentation. L'APF relève avec satisfaction que le défaut d'articulation entre le Code de la santé publique et le Code civil est abordé à l'article 51 sexies. Elle attend que les ordonnances annoncées soient l'occasion de clarifier et renforcer les droits des personnes et qu'une concertation soit ouverte avec les associations représentatives lors de leur élaboration.